Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halo Dmauni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Grand Dialogue de Studio Tamani. Aujourd'hui, nous parlons de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change avec ce texte? La commission de rédaction de la nouvelle constitution a remis la semaine dernière l'avant-projet de nouvelle constitution au président de la transition. Un texte de 195 articles contenant plusieurs innovations. Qu'est-ce que ces changements peuvent apporter au pays? Quels pourraient être leurs limites? Qu'est-ce qui va changer en cas d'adoption de ce texte? Nous en parlons avec nos invités ce soir, Bakabini Keïta, universitaire, Dr Abdoul Sogodogo, politologue, Fatoumata Traoré, experte en genre et gouvernance, et Baba Dakono, juriste. Sekou Gadjigo va modérer ce débat. Mesdames, Messieurs, bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Au regard du contenu de cet avant-projet de constitution, peut-on parler aujourd'hui de nouveaux textes ou de textes actuels révisés, Baba Dakono?
Merci beaucoup, Sekou. On salue tous les téléspectateurs, auditeurs de Studio Tamani en ce moment. Je pense que c'est une question très intéressante parce qu'on est partagé à la lecture du document. Partagé en ce sens que, au départ, l'idée d'une nouvelle constitution, c'était de pouvoir partir sur de nouvelles bases, sur de nouveaux fondements juridiques afin de doter l'État d'un contrat social qui allait le lier avec les populations. Donc, on s'était dit, s'il faut aller vers une nouvelle constitution, donc c'est un nouveau départ. Mais à la lecture de ce qui est proposé, on se demande pourquoi forcément une nouvelle constitution? Parce que c'est vrai qu'il y a des innovations, mais la plupart des innovations étaient déjà prévues dans le cadre de précédentes révisions, sauf à l'exception de deux ou trois réformes. On aurait l'occasion de revenir sur ça, mais de façon à travers une lecture croisée, on se rend compte que la majeure partie des réformes qui sont proposées étaient, entre autres, des réformes qui étaient proposées à travers la loi du 2 août 2011, la loi constitutionnelle qui avait été votée sous le président Amadou Toumani Touré. En 2017, il y a eu également une tentative de révision. Certaines réformes étaient contenues dans cette tentative. Il y a des appellations qui changent, il y a des dispositions qui changent. Il y a les pouvoirs du président de la République, par exemple, qui sont renforcés, mais ce sont somme toute des réformes, des révisions qui pouvaient rentrer dans le cadre d'une révision constitutionnelle. Donc,
il ne nécessitait pas forcément...
Pas forcément en sens du droit, ce que je veux dire. Mais peut-être qu'il y a d'autres considérations, peut-être notamment la méthode de révision de la Constitution qui constitue un obstacle aujourd'hui, qui pousse à aller vers une nouvelle Constitution. Sinon, dans le fond, ce qui est proposé n'engage pas une réforme de nature à dire qu'on change totalement la Constitution.
D'accord. Bakabini Keïta, êtes-vous d'accord avec Baba Dakono qu'il n'y a pas de changement fondamental qui puisse nous amener à dire qu'on change la Constitution?
Attention, il faut préciser, pas de changement fondamental par rapport aux tentatives de révision qui rentraient dans le cadre d'une révision
tout
également.
À fait. Voilà. La précision, Bakabini.
Oui, mais finalement, la question, c'est quoi? Parce que...
Baba Dakono vient de dire que avec ces innovations, ces changements qu'on vient de voir dans ce avant-projet qui a été remis au président la semaine dernière, qu'il n'y a pas assez de changements par rapport à ce qui était prévu dans les tentatives de révision passées.
Bon, au fait, si on entend changement au sens effectivement de passer d'une république à une autre, on n'est pas dans ce cadre-là pour le moment, en tout cas, ce que je sache. Je crois que le président de la commission dit qu'on n'est pas dans un changement, on n'est pas,
comment dire, on ne change pas de constitution, mais on change la constitution.
Mais on change la constitution. Mais
est-ce que pour toi, on peut parler de changement de la constitution avec ces innovations-là?
Bon, moi, sincèrement parlé, je pense qu'il y a. Il y a des innovations, mais en même temps aussi, je m'interroge sur la qualité, la pertinence de certaines des innovations. Est-ce que je suis même inquiet pour certaines des innovations. Puisque quand on va rentrer certainement dans le fond du débat avec le temps, mais sincèrement, moi, j'ai des inquiétudes parce qu'on a effectivement voulu apporter des changements. Mais en même temps, ces changements posent des soucis, en tout cas à mon niveau.
D'accord. D'accord. Nous allons vous redonner la parole tout de suite quand on va aborder ces innovations-là une à une. Peut-être si on parvient à le faire, Madame Traoré. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement parle de nouvelle constitution? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela?
Je pense que oui. Bonjour aux téléspectateurs et puis aux auditeurs. Merci pour cette question. Effectivement, c'est une question fondamentale en ce qui concerne le fait tout simplement de dire on a une nouvelle constitution, est-ce que ça vaut la peine d'avoir une nouvelle constitution? À mon humble avis, vraiment, je pense que cette constitution valait la peine d'être révisée parce que, en quelque sorte, pas révisée, mais on va dire l'adoption d'une nouvelle constitution, dans la mesure où j'ai constaté quand même qu'il y avait des innovations majeures. Déjà, dans le préambule de la constitution, on voit qu'il y a certaines innovations, mais même quand on rentre aussi dans les différents articles avec... Bon, vous avez dit qu'on va revenir sur ces questions-là. Donc, pour moi, ça valait la peine parce que non seulement la constitution de 92 était une constitution qui a été, en tout cas, largement contestée, pour ne pas dire que... pour ne pas dire on y en quelque sorte, mais à chaque fois quand on entend une procédure d'aller vers une nouvelle constitution, il y avait toujours des problèmes. Donc nous pensons qu'effectivement c'est une opportunité à saisir en cette période-là pour aller vers une nouvelle constitution qui va jeter les bases d'un Mali nouveau comme le souhaitent les Maliens aujourd'hui.
D'accord. Docteur Abdoul Sogodogo, est-ce qu'au regard du contenu de ce texte et des tentatives précédentes qui n'ont pas abouti, est-ce qu'on peut dire qu'on part véritablement vers une nouvelle constitution ou bien c'est l'actuelle qui sera simplement révisée?
Merci Sekou pour l'opportunité qui nous est offerte pour partager notre lecture de l'avant-projet de constitution. Et on remercie aussi toutes ces personnes qui nous écoutent en ce moment. À ma lecture, je dirais que on est effectivement la volonté affichée est d'aller vers une quatrième république parce que ne serait-ce qu'un certain nombre d'éléments, par exemple, il y a une volonté d'aller vers un régime présidentiel, même si on le verra dans les discussions, cela peut être un peu nuancé, parce que cette séparation des pouvoirs sous-tendue par cet avant-projet a encore des marges d'amélioration pour qu'il y ait une véritable séparation ou, si vous voulez, un véritable équilibre entre l'exécutif, le judiciaire et l'exécutif. Je trouve que le judiciaire reste encore le parent pauvre et qui est à certaines mesures inféodé encore à l'exécutif. Par exemple, quand on regarde la composition de la Cour constitutionnelle, on voit encore l'influence du président de la République. On voit encore le président est toujours membre du Conseil supérieur de la magistrature. Donc j'imagine déjà que le ministre de la Justice reste encore le rapporteur, ce qui est une immixtion, à mon sens, de l'exécutif encore dans le judiciaire. Alors que si on veut cet équilibre, il faut que le pouvoir exécutif n'ait pas cette influence. On voit aussi qu'il y a des marges d'équilibre au niveau du Parlement qui reste encore à certains points dépouillé de son pouvoir de contrôle. Il n'a pas encore la totalité de ce pouvoir-là. Il n'a pas un regard sur la nomination, par exemple, des hauts fonctionnaires, par exemple les ambassadeurs. Le président, il nomme qui il veut. Il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un regard préalable du Parlement en la matière. Et donc, ce sont ces éléments, peut-être avec les observations qui vont se faire dans les jours à venir, qui peuvent permettre justement d'améliorer ce projet et qu'on puisse se retrouver ce que j'appelle un véritable 4e République dans un régime présidentiel.
D'accord. Vous nous plongez déjà dans les innovations, Baba Dakono. S'agissant des innovations, qu'est-ce que vous saluez dans ces changements qu'on constate dans cet avant-projet?
Il y a un certain nombre d'éléments qui constituent des avancées. Et je pense que peut-être, comme on doit parler du fond en ce moment, préciser ce que je disais tout à l'heure par rapport aux précédentes initiatives. Quand on prend les innovations majeures, je ne parle pas des innovations qui, à mon sens, sont un peu fantaisistes, telles que les mentions faites à l'administration, l'organisation de l'administration. Dans la constitution précédente, l'administration faisait partie intégrante de l'État et était placée sous l'organisation et la gestion du Premier ministre. La Constitution de 92 dit que le Premier ministre dispose de l'administration et des forces armées. Donc ça, on n'en faisait pas un corps à part et je ne vois pas l'intérêt d'en faire un corps à part, étant donné que ce soit le gouvernement, que ce soit la Cour suprême, toutes les institutions travaillent avec une administration. Donc c'est un corps transversal et les pouvoirs de nomination dans ce corps de mobilité et d'avancement, etc., l'organisation de ce pouvoir-là revient au gouvernement et en l'occurrence à son chef. Donc j'utilise l'expression pour des fantaisistes. Pour moi, c'est juste pour faire. Peut-être c'était pour augmenter le volume de la Constitution et je pense qu'on y est arrivé. Maintenant, à part ces innovations-là, toutes les autres innovations qui tentent, qui sont liées à l'organisation des pouvoirs publics, on les retrouve pratiquement dans le projet de Amadou Toumani Touré de l'époque. Je prends l'exemple du fait que le Premier ministre conduit et définit la politique de la nation. À l'époque, c'était le président, sous la proposition de Daba Diawara, c'était le président qui définissait la politique de la nation. Et à l'époque, l'idée, c'était que le président est élu au suffrage universel direct sur la base d'un projet de société. Il était important de lui laisser définir la politique de la nation. Donc le Premier ministre ne le définissait pas. C'était là encore en 2011. La création d'une seconde chambre, c'est une innovation aussi dans l'organisation des pouvoirs publics, des institutions. C'était le cas en 2011. On l'a appelé Sénat. Cette fois-ci, on l'appelle, je crois, Haut Conseil de la Nation. Donc oui, il y a l'appellation qui change, mais le principe reste le même. C'est que l'Assemblée, le Parlement est doté de deux chambres. Une chambre avec des élus au suffrage universel direct et une seconde chambre qui est censée représenter les territoires dont le mode d'élection peut être fixé autrement. C'est-à-dire au suffrage universel direct avec des collèges spéciaux, ce qui était proposé en 2011. Cette fois-ci, il n'y a pas de précision sur le mode de désignation d'un quart de ces membres du Haut Conseil qui mérite d'être éclairé. L'autre chose, c'est par exemple au niveau des pouvoirs judiciaires, l'introduction du contrôle de constitutionnalité par voie d'exception à travers ce qu'on appelle la question prioritaire. C'était déjà prévu en 2011. Donc voilà un peu ce que je disais tout à l'heure en disant que la plupart des réformes, en tout cas qui m'a été donné de constater, existaient déjà. Maintenant, l'innovation qui personnellement n'était pas là en 2011 et qui, à mon sens, mérite d'être saluée, mais là encore bien organisée, c'est la mention faite aux chefs traditionnels. En 2011, le Sénat devrait être composé également des chefferies, des légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses, mais on ne faisait pas une mention expresse pour dire que ce sont des personnalités qui concourent à l'animation de la vie publique du pays. Ça, c'est une innovation importante. Je pense que je faisais partie de ceux qui estiment qu'il faut une seconde chambre au niveau du Parlement. Pas pour caser des gens, mais pour le confort de la démocratie et pour renforcer davantage la capacité de contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement. Deux chambres, c'est toujours mieux parce que ça fait deux examens. Mais par contre, là où je suis un peu resté sur ma faim par rapport à l'innovation, c'est qu'en même temps qu'on renforce le Parlement, mais en même temps, on le dépouille de sa possibilité d'exercer ce contrôle-là sur le gouvernement. Je sais qu'on aura l'occasion de revenir un peu sur ça. Peut-être ça, c'est d'entre-deux-jeu quelques observations sur le fond.
Tout à fait. Bakabini, est-ce qu'avec ce texte-là, vous avez l'impression qu'on essaie de trouver un équilibre entre les différents pouvoirs, le judiciaire, l'exécutif et le législatif?
Bon, effectivement, je pense que ceux qui ont fait le texte, la commission, il y a effectivement une volonté à afficher, en tout cas à changer les choses qualitativement, dans le sens en tout cas du renforcement et du redressement de la démocratie. Je pense qu'on voit bien ça, qu'il y a cette tentative qui est là. Mais s'il y a cette tentative, il y a quand même beaucoup d'hésitations. Si ce ne sont pas des hésitations, quand même, il y a... Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été formulées, notamment par exemple quand les gens disent que nous sommes passés d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Mais à fond, si on essaie d'analyser, ça c'est ce que j'appelle, si on en fait une lecture formelle, mais dialectiquement, si on essaie de voir un peu les prérogatives avec la nouvelle constitution du président de la République, on va très bien qu'en fin de compte, au lieu que le président de la République soit quelqu'un de fort, il devient faible parce que désormais, il y a la possibilité qu'il soit destitué par l'une des deux chambres ou les deux à la fois. Bon, à ce niveau, moi, j'ai des inquiétudes. Mon inquiétude, c'est que, vous savez, les partis politiques sont faits pour conquérir le pouvoir. Et donc, si on demande à un homme politique et on donne le pouvoir à un homme politique de destituer un autre, donc je pense qu'on ouvre la voie à l'instabilité. Donc, surtout qu'on dit, bon, haute trahison, le concept de haute trahison qui n'est pas clairement, en tout cas, défini, est-ce qu'il est même possible de... Je crois aucune constitution du monde n'est arrivée, en tout cas, à traduire de manière claire et précise ce concept de haute trahison. Donc, c'est quelque chose où on peut mettre tout. Et donc, dans ces conditions-là, moi, je crains que ça ne soit l'occasion donnée, en tout cas, à des hommes politiques, à chaque fois qu'ils veulent accéder au pouvoir. Donc, le pouvoir d'un tel ne me plaît pas, donc je crée les conditions pour qu'il soit décidé. Donc, ça, c'est une inquiétude. Si vous me permettez, c'est une inquiétude majeure, en tout cas, dans, comment dirais-je, par rapport à cette nouvelle constitution. Il y a d'autres innovations, par contre, qui me semblent importantes, mais qui doivent être... On doit avoir le courage de les renforcer. Par exemple, pour la première fois, en tout cas, dans aucune des constitutions du Mali, le citoyen avait la possibilité d'interpeller directement, je crois, la Cour constitutionnelle ou si c'est la Cour suprême. Je n'ai pas le papier sous la main. Et donc, ça, ce sont des innovations. Et même si vous prenez, cette interpellation du citoyen, mais il faut mettre aussi des garde-fous pour que les gens aussi n'interpellent pas pour n'importe quoi. Même par rapport à la décision du président, il est dit que les deux chambres ont la possibilité de destituer le président. Mais pour quel motif? Est-ce que si, par exemple, il s'avère que le président, c'est-à-dire que les deux chambres ont tort de proposer la décision du président, je n'ai pas vu quelque part des contre-sanctions, c'est-à-dire des sanctions qui soient prévues pour en tout cas les deux chambres qui ont proposé en tout cas la décision du président. Donc il y a la volonté affichée vraiment d'aller de l'avant, de renforcer notre démocratie, de parfaire notre démocratie, mais apparemment, peut-être c'est la pression du temps aussi qui est là, parce que c'est ça que moi je dis chaque fois. D'accord. Le problème, de nos transitions, c'est que les transitions sont mises sous pression. Donc, okay. On leur demande de faire des tas de boulot en un laps de temps, ce qui fait que souvent, les choses
c'est
sont
pas,
faites à
c'est
moitié.
Pas, c'est pas facile. Alors, Mme Traoré, contrairement à Bakabini, il y a certains qui pensent que la part belle est faite au président de la République dans ce texte, en passant de régime semi-présidentiel au régime présidentiel. Qu'en dites-vous?
Bon, la part belle. Alors, à ce niveau, je pense que cela sous-tend aussi certains articles qui ont évoqué le fait que le président de la République est impliqué dans la désignation des membres des institutions de la République. Donc, je pense que c'est surtout ça. Donc, et c'est également lié au fait que, puisque dans le texte, on a fait une séparation claire entre le pouvoir judiciaire, législatif et l'exécutif.
Mais au finish, on voit que c'est le président qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est le président qui nomme, qui désigne deux des neuf sages de la Cour constitutionnelle, qui nomme le président de la Cour suprême. Est-ce qu'il y a véritablement une séparation de pouvoir?
Je ne pense pas qu'ils nomment. Le président des institutions sont nommés par leurs pairs. Mais ce qui est sûr, les neuf membres, il y en a deux qui sont nommés par le président de la République, c'est vrai. Donc, maintenant,
deux autres par le Conseil supérieur qui est présidé quand même par le président.
Oui, c'est vrai. Bon, je pense quand même que, effectivement, certains pensent qu'il y a moins de pouvoir. Moi, je pense qu'il y a trop de pouvoir. C'est mon humble avis sur la question.
Trop de pouvoir pour...
Trop de pouvoir pour le président de la République qui, en quelque sorte, dans l'exercice de sa fonction, peut peut-être être une entrave à la séparation des pouvoirs qui est édictée dans la nouvelle Constitution. Donc, je pense qu'il y a ce problème-là donc, que je partage. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si c'est le lieu de le dire, c'est que finalement, quand on regarde la question des forces armées et de sécurité, partout, on a parlé d'un corps, donc on évoque aussi autant les prérogatives que les limitations de pouvoir. Mais dans la Constitution, cela ne ressort pas pour les forces armées et de sécurité. Donc il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres points. Je ne sais pas si on va revenir là-dessus.
D'accord.
Mais voilà.
D'accord. Docteur Segodougou, est-ce que quand on regarde ce texte-là, on a l'impression que les rédacteurs se sont... assumer à aller vers cette indépendance de la justice que le peuple demandait depuis fort longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le judiciaire est vraiment indépendant de l'exécutif ?
Il y a des efforts, mais je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il y a encore des marges d'amélioration ou de progression pour rendre la justice encore indépendante du pouvoir exécutif. Par exemple, je le disais tout à l'heure, il faut que vraiment qu'on retire le président du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a cette possibilité qui est désormais laissée pour que le citoyen puisse saisir le Conseil supérieur de la magistrature. C'est un pas dans la lutte contre l'impunité et ça, c'est à noter. Mais comme vous le disiez déjà tout à l'heure, quand vous posez la question à Mme Samake, la question de l'influence du président de la République dans la nomination des membres de la Cour constitutionnelle, qui reste vraiment une réalité. Et donc, ça, il faut peut-être le revoir. Et je vois qu'il y a certaines corporations peut-être qui pourraient jouer un rôle. Par exemple, pourquoi les organisations de la société civile ne pourraient pas nommer certaines personnes comme membres de la Cour constitutionnelle. Donc ça, c'est des efforts qui peuvent être faits. Mais on voit aussi que les articles 6 et 7, quand vous regardez les règles d'habeas corpus qui sont promues et dans cette constitution cette fois-ci, sont de nature à garantir un peu davantage, plus de justice pour les citoyens. Parce qu'on a mis, désormais, le procureur ne peut plus mettre quelqu'un sous mandat à plus de 48 heures. Il faudrait un mandat. Donc on avait vu qu'il y avait quand même des abus. Il y avait beaucoup d'abus dans ce domaine-là. Donc, je disais, peut-être qu'il faut encore, avec les différentes propositions qui vont être faites par les acteurs politiques, les organisations de la société civile, les partis politiques, donc peut-être qu'il faut tenir compte des différentes observations pour vraiment rendre la justice indépendante. Je le disais, je le trouve encore vraiment le parent pauvre, le pouvoir qui est un peu sous-estimé ou en tout cas pas suffisamment mis dans des bonnes dispositions pour jouer pleinement son rôle pour qu'on ait cet état de droit.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Alors que je pense que c'est une demande forte
C'est peut-être une tradition et le fait qu'on ne veut pas peut-être rompre quelque part avec, c'est pas facile de rompre avec le régime présidentiel auquel nous sommes habitués. Nous sommes dans un système franco-francophone. Hein. Vous voyez, nous sommes les seuls, par exemple, à avoir deux ordres juridiques, une justice pour l'administration et une justice pour la personne, une juridiction de droit commun. Parce qu'on a toujours voulu mettre l'administration dans une situation particulière. Donc, on n'a pas cette culture de voir l'administration comme étant un sujet ordinaire du droit. Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'inspire un peu de ce qui se fait ailleurs, mais surtout de s'inspirer de nos véritables réalités. Et je pense que cette nouvelle constitution fournit aussi des efforts dans ce sens en reconnaissant la justice traditionnelle. Et bien, la question va être comme les questions que ça va être organisé par une loi. Donc, c'est de voir jusqu'à où on va pouvoir permettre à cette justice traditionnelle de jouer un rôle important dans la régulation des conflits.
Baba Dakuno, les institutions ont été réduites hein, de 8 à 7. Certains l'ont salué. On remarque l'introduction du Haut Conseil de la Nation, qu'on peut qualifier comme une sorte de Sénat. Mais en quoi est-ce que ce Haut Conseil-là va renforcer le législatif ?
Si vous voulez, d'un point de vue arithmétique, les institutions ont été réduites, mais dans les faits, non, parce que le Haut Conseil de la Nation fait partie d'une institution, mais elle est même plus budgétivore que le Haut Conseil des collectivités. C'est un Sénat, en fait, le Haut Conseil de la Nation. On l'appelle Haut Conseil de la Nation. Je crois qu'en Algérie, ils ont une autre appellation qui n'est pas le Sénat. Bon, les gens l'appellent un peu partout, comme ils le souhaitent, mais ça a vocation à jouer le rôle d'une seconde chambre. Donc,
vous dites qu'elle est budgétivore.
Elle est autant budgétivore, et sinon plus, parce qu'elle a beaucoup plus en termes de durée de session. Elle a l'équivalent des durées de session de l'Assemblée nationale. Donc, c'est en fait, il faut juste dupliquer l'Assemblée nationale et proportionnellement au nombre, donc réduire ce budget-là au nombre de sénateurs. Par exemple, si on a 200 députés et qu'on a 100 membres du Haut Conseil de la Nation, donc il faut diviser le budget de l'Assemblée nationale par deux pour avoir le budget de cette institution. Le budget du Haut Conseil des collectivités à l'époque, c'était autour de 1 milliard 2, 1 milliard 6. Et là, c'était une institution qui avait deux sessions par mois, par an, qui n'excédait pas 15 jours. Donc là, on est avec une institution, avec une seconde chambre qui a les mêmes durées de session que l'Assemblée nationale. Donc oui, d'un point de vue arithmétique, comme je le disais, on a l'impression qu'on a réduit, mais en fait, on a toujours les 8 organes qui vont fonctionner, dont 2 organes combinés en une institution.
Était-il nécessaire ce Haut Conseil de la Nation ?
Comme je le disais à l'entame, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut 2 chambres au Parlement pour plusieurs raisons. L'une des raisons d'ailleurs pour moi ne se retrouve pas dans la Constitution actuelle, c'est que je ne dirais pas que c'est une insuffisance, c'est un choix en fait. Les rédacteurs actuels ont choisi de garder la rigidité constitutionnelle qu'on avait depuis 1992. Moi, je pense qu'il était important d'avoir une mixité, c'est-à-dire de faire en sorte que la Constitution soit rigide sur certaines dispositions. Ce qui préoccupe les politiques, c'est généralement la limitation du mandat présidentiel, que la Constitution soit rigide sur ça. La forme républicaine et tous les autres principes qu'on juge importants et des acquis obtenus après de hauts sacrifices, qu'on puisse faire en sorte que cette disposition ne puisse être modifiée que par référendum. Maintenant, l'organisation des pouvoirs publics, les rapports entre les institutions, quelle que soit notre intelligence collective, on peut se tromper sur certaines choses. On peut penser qu'en créant cette institution et en faisant en sorte que son rapport avec l'autre soit fait comme ça, ça va marcher. Mais dans la pratique, on se rend compte que non, il y a des blocages souvent. Donc qu'on puisse corriger ces blocages-là à travers une révision souple, donc les deux chambres réunies. Donc pour moi, c'est aussi ça l'intérêt d'avoir une seconde chambre. Parce que là, on a la représentation du peuple à travers l'Assemblée nationale, on a la représentation des collectivités, donc des territoires, à travers le Haut Conseil de la Nation. Donc, les deux chambres réunies pouvaient modifier ces articles-là. Les deux chambres réunies peuvent même modifier. Supposer que ce texte n'aurait pas été l'avant-projet et qu'il aurait le projet. Adopté, référendum, on se rend compte qu'il y a des erreurs matérielles. Vous savez qu'on ne peut pas corriger ces erreurs matérielles-là si on ne passe pas par un référendum. Par contre, si on garde la souplesse à ce niveau, les deux chambres réunies peuvent modifier ça. Le second intérêt pour moi d'avoir une seconde chambre, c'est de renforcer le travail du Parlement dans le contrôle et aussi dans le processus législatif. Vous savez, le gouvernement, le président, il dispose de l'administration. Un ministre, il a au moins 5 conseillers, il a 3 chargés de mission au moins, il y en a qui ont plus que ça. Il a des départements techniques, il a des directions régionaux, il a toute une batterie de collaborateurs qui lui permettent de proposer des textes avec suffisamment de technicité et d'élaboration. Et en face, on demande à un parlement de contrôler l'action de ce ministre, ne disposant que d'un assistant parlementaire par commission. Donc, je pense qu'une seconde chambre a l'intérêt aussi de renforcer davantage, et le double examen permet de rattraper ce qui n'a pas été vu au cours d'un premier examen. C'est vrai que c'est coûteux, mais comme disaient nos professeurs, la démocratie a un coût. Il faut être prêt à assumer ce coût pour avoir une démocratie plus ou moins qui réponde aux attentes. Mais permettez-moi quand même de revenir sur 3 éléments, et c'est ressorti tout à l'heure dans le propos qui est à la fragilisation de l'institution de président de la République. C'est une position que je partage. Je pense que c'est un désir exprimé par les Maliens de pouvoir sanctionner un président qui ne répond plus ou qui trahit sa promesse. Je pense que c'est légitime. Et l'esprit de la révocation du président est là. Mais la façon dont c'est libellé, comment c'est organisé, c'est très dangereux. Je pense qu'il faut garder l'esprit, donner la possibilité à ceux qu'on puisse écouter le mandat d'un président, mais enlever ça du jeu politique. Parce que ce qu'on a fait là, comme il le disait, on a replacé la révocation dans le jeu politique. C'est-à-dire qu'on peut s'organiser politiquement pour destituer un président pour des raisons politiques et toujours trouver à s'adosser à ça. On n'a pas le temps de revenir dans le détail et la dangerosité de l'article tel que libellé, mais j'espère qu'à d'autres occasions, on pourra revenir. Le deuxième point, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, la possibilité que les citoyens puissent interpeller. Et je pense que là aussi, comme je le disais, c'était prévu pour le projet de 2011. C'est reconduit, mais il y a des choses qu'on a ajoutées qui peuvent être compliquées. Parce que dans les autres pays, c'est que l'exemple, c'est qu'au cours d'un procès, moi, Baba Dakonou, je peux dire une telle loi ne peut m'être appliquée parce que j'estime que la loi, elle est inconstitutionnelle. Le juge suspend, prend l'avis de la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que ça se passe. Mais ce qu'on a proposé dans ce projet, c'est que ça passe par la Cour suprême. C'est la Cour suprême. On a alourdi la procédure de telle sorte que ce qui va se passer, c'est qu'on aura... tout le monde va soulever l'inconstitutionnalité des lois. On aura une Cour suprême submergée par ça, des procès qui sont latents. Donc, on est en train de créer beaucoup plus de difficultés. Je pense que pour certaines choses, ce n'est pas la peine de réinventer l'eau chaude ou de se donner l'impression d'inventer l'eau chaude. Il faut garder cette impression. Et le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est vrai que la discussion aujourd'hui, c'est de se demander quel est le type de régime dans lequel on se trouve. En 92, c'était le régime semi-présidentiel où on avait un exécutif bicéphale. Et ça me permet de rappeler les caractéristiques essentielles d'un régime semi-présidentiel. Ces caractéristiques sont de trois ordres. Le premier, c'est justement le bicéphalisme de l'exécutif. Et ce bicéphalisme de l'exécutif permet d'avoir un chef de l'État élu au suffrage universel direct et un Premier ministre nommé par ce chef de l'État, mais qui est responsable devant le Parlement. Et cette responsabilité du gouvernement devant le Parlement, elle est importante. Et en biffant, on enlève une des caractéristiques essentielles du régime semi-présidentiel. On est dans un régime hybride. Quand on finit de lire le titre dédié au président, on se dit non, on est carrément dans un régime présidentiel. Mais quand, à contrario, on finit de lire la section consacrée au Parlement, on est un peu divisé, mais je crois qu'on est en tout cas plus dans le régime semi-présidentiel, en ce qu'une de ses caractéristiques essentielles est partie.
D'accord. Bakabini, il y a une question importante, en tout cas, qui a fait beaucoup de tollé et qui a même été à l'origine de ces manifestations qui ont conduit au renversement du régime d'Ibeka. C'est la Cour constitutionnelle, le fait que la Cour constitutionnelle proclame les résultats. On voit que dans ce texte, dans cet avant-projet aussi, il n'y a pas de changement. C'est la Cour constitutionnelle qui reste chargée de la proclamation des résultats des élections. Vous n'avez pas d'inquiétude par rapport à ça ?
Oui, moi j'ai des inquiétudes effectivement par rapport à ça, mais avant de répondre à cette question, je voudrais effectivement par rapport à la possibilité que le citoyen interpelle. On voit bien que ça, il peut interpeller, je crois, au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, en passant par la Cour suprême. Et donc, comme il a dit, donc non seulement ça alourdit la procédure, mais moi, je pense que ça ne devait pas aussi se limiter là. Il y a bien des décisions qui sont prises par l'Assemblée ou par l'autre chambre, qui, à savoir la nouvelle qu'on peut appeler Sénat ou Haut Conseil de la Nation. Donc, si on essaie de voir, on devait aussi donner politiquement la possibilité, si on veut vraiment renforcer la démocratie, renforcer l'ancrage démocratique, le citoyen devait être en mesure d'interpeller effectivement ces deux chambres également par rapport aux décisions qu'elles pourront prendre et que des décisions qui pourront être dangereuses pour la nation.
D'accord.
Maintenant, par rapport à la question
la
que
cour
vous,
constitutionnelle.
À la Cour constitutionnelle, aux prérogatives données à la Cour dans l'ancienne constitution, donc reconduites dans la nouvelle constitution, je suis d'accord avec toi. En tout cas, j'ai fait le même constat, que les prérogatives n'ont pas changé et qu'effectivement, et moi, mon inquiétude, c'est que s'il y a par exemple Surtout que désormais, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée. Et donc si, par exemple, il y a des contestations au niveau donc, électoral, une Assemblée qui est déjà mise en place, mais que contestée par les citoyens, je me demande qu'est-ce qui va se passer dans ces conditions, parce que donc, il n'y a plus de possibilité, en tout cas, c'est que peut-être j'ai dit des bêtises, si c'est le cas, donc, je crois que les cours des partis pourront en tout cas me rectifier, mais au regard de la lumière de ma lecture, je ne vois pas comment, si de tels cas se produisaient et validés par la Cour, parce qu'on a vu que l'élection législative qui a causé, qui a fait déborder le vase, et évidemment, c'est des élections qui ont été validées par la Cour constitutionnelle. Et donc, mais le président avait la possibilité effectivement de dissoudre l'Assemblée. Donc c'est ce qui nous a un peu sauvés. Mais aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, je crois que cette possibilité n'existe pas. D'ailleurs, je suis aussi étonné de voir qu'on ne parle de destitution que par rapport au président de l'Assemblée, que par rapport au président du Haut Conseil de la Nation, mais en ce qui concerne l'entièreté donc, de la Chambre, parce qu'une décision peut être prise, ce n'est pas seulement le président qui est en cause, l'ensemble donc, de la Chambre peut être en cause l'une ou l'autre, ou les deux à la fois. D'accord. Mais par rapport à cet aspect, on ne dit absolument rien. Donc, il y a... Moi, je crois que je ne suis pas en train de... Ceux qui ont fait le travail, il faut les saluer. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. On voit bien qu'ils ont la volonté de, vraiment de bien faire les choses. Mais je crois qu'il y a pas mal de choses, en tout cas, à revoir encore si nous voulons éviter des désagréments dans l'avenir.
D'accord. Madame Traoré, on va parler des femmes. Est-ce que les femmes peuvent se satisfaire de ce texte? En lisant le texte.
Alors, là, je pense... Non, on ne peut pas se satisfaire de ce texte-là parce que pratiquement, quand on regarde la Constitution de longtemps, là, on ne va pas dire Constitution, l'avant-projet, c'est qu'on se rend compte que les questions d'égalité sont quand même, en quelque sorte, abordées en filigrane dans le document. C'est-à-dire qu'on parle d'égalité quand on veut parler de façon générale, quand on veut vraiment parler de la population dans sa généralité. Mais il n'y a pas un seul article qui met l'emphase, par exemple, sur les questions d'égalité, de chance. J'ai vu ça quelque part dans un article où on parle d'égalité de chance par rapport à la rémunération, mais pas plus. Mais d'égalité, des principes d'égalité, par exemple, par rapport à l'emploi et autres. Mais nous ne voyons pas cette prise en charge de l'égalité des sexes dans les différents articles de cette Constitution.
Et on voit que c'est le masculin. Qu'on mette la loi sur la loi sur le genre, la loi 052, non, dans ce texte.
Bon, on n'a pas besoin d'aller jusque-là parce qu'il y a déjà une loi qui est là. Donc, on considère que cette loi doit faire son effet à travers ses différentes dispositions.
Puisque cette loi
avec
est souvent,
son décret d'application.
Est souvent ignorée par...
Oui, c'est ignoré, c'est vrai que c'est ignoré, mais je pense que c'est dans la Constitution qu'on avait l'ultime chance de mettre vraiment, on va dire, les projecteurs sur la question d'égalité entre les sexes. Et c'est là, malheureusement, on est passé totalement à côté. Vous allez voir, par exemple, quand on analyse certains articles, quand on parle des richesses de la nation, quand on parle, par exemple, des fonctions que nous devons, que la population devait occuper. Donc, on ne parle pas de cette égalité de chance et on ne parle pas non plus des obstacles qui pourraient éventuellement empêcher les femmes d'arriver à ça et de dire que, par exemple, on va tout mettre en œuvre pour que ces obstacles-là soient levés. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que moi, je trouve qu'on ne peut pas se satisfaire de cela. C'est vrai que ça a été abordé, mais vraiment... pas de façon approfondie, de manière à donner une égalité de chance à tous les citoyens et citoyennes du Mali.
D'accord. Docteur Sogodogo, on parlait à l'instant de la Cour constitutionnelle. Je voudrais qu'on revienne sur ça. C'est un problème qu'en tout cas qui a provoqué des soulèvements ici. Est-ce que vous comprenez le fait qu'on n'ait pas décidé de changer cette disposition, que la Cour constitutionnelle garde toujours dans ses prérogatives la proclamation des résultats des élections?
Oui, et je trouve que c'est encore l'un des aspects sur lesquels il y a des améliorations possibles. Il faut reconnaître aussi quand même qu'il y a eu un effort. Il y a eu, par exemple, quand on regarde l'élection du président de la République, on voit qu'effectivement, il va continuer à proclamer les résultats définitifs. Mais on a atténué son pouvoir de reformulation, par exemple. Parce qu'on dit que lorsque cette reformulation a tendance, par exemple, à changer un peu l'ordre, alors si le deuxième va se retrouver premier, donc la Cour peut annuler les élections. Donc le troisième ne pourra plus se retrouver premier. Mais je pense que moi j'aurais souhaité que carrément qu'on donne la compétence à l'organe unique de gestion des élections de proclamer des résultats définitifs et que la Cour puisse connaître du contentieux, par exemple. Ça serait plus sage, et ça, parce que les décisions de la Cour sont sans recours, en fait. Donc, c'est très important de le garder à l'esprit. Et je disais aussi que c'est vrai, on a essayé de travailler à l'impartialité de la Cour. Ça, il faut saluer aussi cet effort-là. En donnant un mandat unique, moi j'avais proposé une nomination à vie. Et j'en discute beaucoup avec les collègues. Certains pensaient qu'il fallait aller vers un mandat unique. C'était mon plan B. Je vois que ce plan B a été adopté. Donc, il faut encore vraiment revoir ça. Ce n'est pas suffisant d'atténuer seulement le pouvoir de reformulation. Je pense que la démocratie malienne gagnerait plus en retirant cette compétence à la Cour, carrément. Quoi. C'est-à-dire pour que la Cour n'ait plus à annuler, à reformuler, à décompter comme il le veut, comme on faisait une autre centralisation au niveau de la Cour. Ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que nous devons tirer les leçons de notre passé démocratique.
D'accord. Baba Dakounou, on parle beaucoup de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation signée issu du processus d'Alger. On dit que pour que cet accord puisse être effectivement mise en œuvre, il faut changer ou réviser la constitution. Est-ce que vous pensez que dans ce texte-là, on l'a suffisamment pris en compte ?
Je pense qu'il n'y avait même pas de besoin. Et c'était l'un des principaux points de revendication du mouvement de contestation en 2017. Le fait qu'on ait essayé de mettre dans la Constitution des dispositions qui pouvaient être réglées par le cadre législatif. Notamment l'organisation du territoire, la loi portant sur les collectivités, organise déjà, prend en compte la plupart des revendications ou des points qui sont inscrits dans l'accord pour la paix. Le seul point, c'était que il y a une seconde chambre pour assurer plus de représentativité. Je pense que c'est pris en compte. Au-delà de ça, il n'y a vraiment pas besoin dans le détail que la Constitution aille dans le détail des dispositions prévues par l'accord. Et c'est pourquoi il y a certaines dispositions qu'on voit dans la Constitution qui, à mon sens, n'ont pas leur place, telles que la limitation des membres du gouvernement. La situation actuelle nous oblige peut-être à une certaine forme d'orthodoxie en imposant peut-être 25 ministres. Mais on n'espère pas qu'on soit dans cette situation pour toute la vie. On espère que nos conditions soient améliorées. Et ce sera quand même très contraignant parce que le nombre de membres du gouvernement, la composition du gouvernement, c'est une question éminemment politique. Et il faut laisser le choix parce que le contexte politique peut contraindre le président à faire certains choix. Si on le restreint à 29 ou à 25 ou à 20 ou à 30, c'est compliqué. Je pense que la Constitution...
Est-ce que cela pourrait être source de blocage
Je ne pense pas que ce soit des sources de blocage. C'est des sources de difficultés. Ça va juste... ça pourrait être très contraignant pour un président de la République pendant un moment donné. Comme je le dis, il ne faut pas qu'on soit focus sur la situation actuelle. Ce qu'on espère, c'est que la situation actuelle, elle est conjoncturelle, elle est difficile, mais qu'on y sorte. Et si on travaille, bien entendu, on va y sortir. Donc, on ne doit pas prendre nos décisions en fonction on va prendre des décisions et les consacrer de façon constitutionnelle en fonction de la situation d'aujourd'hui. On doit aussi être regardant sur l'avenir.
D'accord. Nous n'avons que 3 minutes. On me fait signe qu'on n'a que 3 minutes. Moi, je voulais juste poser une question en plateau. Est-ce que, en l'état, vous pensez que ce texte-là peut assurer la stabilité au pays, Baba Dakounou?
Au contraire, ce texte, s'il n'est pas amélioré, fort heureusement, il y a une marge de manœuvre pour l'améliorer parce que le problème d'un référendum, c'est que c'est oui ou non. Dans ce texte, il y a beaucoup de choses qui nous plaisent et dans le même temps, il y a des choses qui nous inquiètent. Et donc, comme c'est une question fermée entre oui ou non, on est souvent tenté de suivre nos inquiétudes plus que les avancées qu'on obtient là-dedans. D'autant plus que la Constitution telle que rédigée, l'avant-projet tel que rédigé actuellement ne permet pas une révision de façon souple. Donc cette Constitution qu'on aura elle nous sera imposée et ce sera difficile de même le modifier sans passer par un référendum. Vous avez vu la situation sécuritaire. Même actuellement, organiser un référendum, c'est un exercice extrêmement difficile. Donc, toujours en pensant à l'avenir, je pense qu'on gagnerait à la rendre plus souple. Donc, en l'état, je ne pense pas que ce soit un gage de stabilité. Je pense plutôt que c'est le contraire. Mais il y a la marge pour pouvoir prendre en charge les inquiétudes.
D'accord, Bakabini.
Oui, bon, je pense que je rejoins Baba pour dire, évidemment, tant que sous cette forme-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des avancées. Il y a beaucoup, effectivement.
Il faut corriger les insuffisances.
Il y a eu beaucoup d'efforts dans le sens, en tout cas, à renforcer l'ancrage démocratique. Mais il y a aussi beaucoup d'insuffisances qui ne sont pas forcément dues à la qualité des hommes, mais peut-être dit au temps, dit à pas mal de contraintes. Et donc, il ne faut pas fermer les yeux dessus. Je crois qu'il faut faire des efforts pour les corriger si nous voulons, en tout cas, éviter à notre pays de l'instabilité.
D'accord, Madame Traoré.
Moi, je dirais qu'il n'y a pas de texte parfait. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, tout au long de ce débat, on a vu les insuffisances. Donc, il va falloir que des actions soient prises pour que ces insuffisances soient corrigées au maximum, on va dire, et qu'il peut aller dans le sens d'un consensus national, de manière à adopter une constitution vraiment qui, quand même, satisfait la population entière.
Est-ce que cela peut être fait tout en restant dans le temps pour les prochaines échéances, le référendum?
Je pense que oui, si les moyens sont mis. Pourquoi
Docteur Sougoudou. Oui, je pense qu'il faut déjà saluer le travail fait ici. Il y a des apports significatifs qu'on ne peut pas ignorer. Mais comme mes collègues l'ont souvent souligné dans ce débat, il y a quand même des aspects qu'on peut améliorer, par exemple en matière de protection des droits de l'homme. On a vu qu'il y a des apports considérables qu'on ne peut pas ignorer. Il y a une volonté d'équilibrer les pouvoirs qu'on ne peut pas ignorer, mais malheureusement, c'est un travail humain. Et il fallait quand même proposer quelque chose à la discussion. Moi, je le vois, c'est un avant-projet. C'est quelque chose qui va nous permettre d'engager la discussion entre Maliens. Il appartient maintenant aux autorités d'avoir ce courage de bien écouter les différents acteurs dans le but d'améliorer ce texte pour qu'il soit un texte qui soit l'émanation véritable du peuple malien et pour consolider la démocratie que nous espérons bien en marche.
D'accord, c'est ce qui met fin à ce grand dialogue. Merci à nos invités Baba Dakono, juriste Fatoumata Traoré, spécialiste en genre et en gouvernance, Baba Bakabini Keïta, plutôt universitaire, et Dr Abdoul Sogoudogo, politologue. On parlait aujourd'hui de l'avant-projet de constitution. Qu'est-ce qui change avec ce texte? Ce débat a été mis en onde par Gagny Kanté. À la régie vidéo, il y avait Salim Diouara, Sekou Gadjigo, vous la présentez. Merci et à demain pour un autre numéro.